nous a dit la fois dernière. Et je vous ai envoyé les notes. Ceux qui ne les auraient pas reçues ou qui les voudraient, c'est qu'il y a un problème de mail ou je ne sais pas quoi. Mais donc tout le séminaire, toutes les rencontres qu'on a eues, j'ai envoyé les notes. Et j'aimerais rappeler plusieurs points qu'il a dit et aller un peu plus loin. Rappelez-vous, il a dit une fois, être qui nous sommes vraiment, c'est manifester la gloire de Dieu. On ne peut pas être plus un homme que quand on est qui nous sommes. Hein? Quand on est ce qu'on est vraiment, pas quand on veut faire quelque chose d'autre ou être ce qu'on n'est pas, mais quand on est vraiment ce que nous sommes, nous manifestons la gloire de Dieu. Et il a dit tous ont péché, mais Jésus n'a jamais péché. Il savait qui il était. Et quand on le voyait, qu'est-ce qui se passait? On voyait la gloire de Dieu. Or, nous avons été rachetés. Et nous sommes dans la même position que Jésus. Non pas par nos mérites, mais à cause de lui. Et donc, on est appelé, nous manifestons la gloire de Dieu. Où cette gloire est-elle révélée? Dans les personnes qui découvrent ce qu'elles sont. Ce qu'elles sont vraiment. Si nous voulons voir, dit-il, une génération se lever en sachant qui elle est en Dieu, c'est l'étape la plus importante pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ce pays. Vous remarquez que nous sommes dans un temps où il y a un combat par rapport à la notion d'identité. Hein? Les nouvelles lois, tout ça, elles touchent à l'identité. C'est l'identité qui est touchée. Et en même temps, c'est impressionnant, Dieu parle à son Église d'identité, justement. Et lui rappelle qui tu es vraiment, qui tu es en Dieu, qui tu es en tant qu'individu, avec les dons particuliers que Dieu t'a donné, qui tu es. Et Dieu veut manifester cette gloire-là. Jésus a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Eh bien, c'est un peu la même chose pour chacun de nous. C'est possible parce que Jésus a fait cette œuvre qui nous a réconciliés et qui fait de nous des artisans, des libérateurs de la gloire de Dieu. Il nous rappelait aussi que la religion des hommes, les lois des hommes, c'est notre ennemi premier, dans le sens qu'elle nous empêche d'être qui nous sommes. On veut faire des trucs. Ça me rappelle, moi, la première fois que Dieu m'a touché par cette joie qui venait du ciel, et moi, le dépressif qui, avec ma guitare, faisait tout pleurer une assemblée en 20 minutes. Il ne fallait pas plus de 20 minutes. Et je peux vous assurer, mes copains, ils chialaient pas comme ça. Hein. Mais j'avais un tel esprit de tristesse, en 20 minutes, je les faisais chialer. Bon, ils avaient un peu bu aussi, peut-être ça a aidé. Hein. Voilà. Mais alors, je peux vous dire, quand Dieu s'est révélé par cette joie qui venait du ciel, j'ai essayé pendant les jours qui suivaient de maintenir cette joie par des choses religieuses qu'on m'avait appris petit, vous voyez, des actes extérieurs, des prières extérieures, mais qui ne correspondaient pas à ce qui était dans mon cœur. Et quelques jours après, eh bien, c'est parti, mais je savais que Dieu était vivant. Mais donc, c'est en étant qui nous sommes vraiment, la personne que nous sommes vraiment, tel que Dieu me voit, c'est là que je suis connecté à Dieu et que je manifeste sa gloire. La religion nous dit toujours, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme si on sort de nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes. Mais le Christ nous dit, je veux que tu sois toi-même. Qui tu es, toi? Et c'est ça qui nous a rappelé Martin Scott. Si je veux voir la gloire de Dieu, il me fait découvrir qui je suis. Qui je suis. Et cette nécessité de changement de mentalité, que l'Église découvre qui elle est au fond. Ça aussi, ce n'est pas seulement des individus, mais c'est l'Église, qui elle est. Et rappelez-vous, il nous a dit, l'important, c'était une nouvelle conversion. Et Pierre, il a parlé souvent de l'exemple de Pierre, qui était pourtant, qui aimait Dieu, qui aimait Jésus, mais il avait besoin d'un nouveau regard, avec cette vision qu'il a eue d'une nappe avec les animaux impurs. Un nouveau regard sur Dieu et sur lui-même. Et là, j'aimerais vous rappeler, nous sommes un jeune homme, il y a au XVIe siècle, il avait 25 ans, un jeune homme, et qui allait bouleverser le monde. Il était à Bâle, juste à côté là, et à 25 ans, il a écrit un ouvrage qui allait faire des vagues pendant des siècles. C'est l'institution de la religion chrétienne, Jean Calvin. Et dans le premier chapitre, première phrase, écoutez ce qu'il dit. « Toute la somme presque de notre sagesse, laquelle à tout compter mérite d'être réputée vraie, entière sagesse, est située en deux parties. » Donc toute la sagesse, il y a deux parties. C'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous se connaisse. 25 ans, il a dit, l'importe toute la sagesse de Dieu, c'est connaître Dieu, et quand tu le connais, c'est te connaître toi-même. Ça, ça parle de l'identité. Et ça, c'était le démarrage d'une réforme puissante. Et il a vu, et il a manifesté la souveraineté de Dieu. 25 ans. 25 ans. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont 25 ans, là, ici, dans l'église? Pas tout à fait, là. D'accord. Il y en a qui sont pas loin, en tout cas. Hein. Il y en a qui ont un peu plus. D'accord. En tout cas, voilà. Voilà. Vincent, t'as combien? T'as 25. Voilà. Jean Calvin avait 25 ans quand il a dit ceci. Et je crois que ça nous parle. Et j'aimerais prendre l'exemple. Donc, on veut parler aujourd'hui d'une identité restaurée pour un héritage restauré. Et l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est l'exemple de Jacob. Et dans Genèse 32, on veut lire le passage. Nous sommes tous un peu des Jacob, on va le lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu étais vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations à ce passage, en particulier qui c'était cet ange, cet homme, on pense que c'était Jésus, hein, l'ange de Dieu, Jésus lui-même. Et il fait nuit noire, il ne discerne pas, parce que est-ce que c'est quelqu'un qui veut le tuer ou quoi? Il remarque une chose, c'est que c'était quelqu'un de puissant, hein, de fort. Et la lutte qu'il lui impose est une lutte à mort. Et en fait, il sent qu'il veut être réduit. Cet ange veut le réduire en poussière. C'est littéralement, c'est le mot poussière. Et Jacob, il se défend follement avec tout ce qu'il est. Il se défend. Et la situation géographique, et c'est là que ça nous intéresse. C'est parce qu'il était juste à la frontière du pays de la promesse. Juste avant son héritage, Dieu a voulu toucher son identité. Est-ce que Jacob ne connaissait pas Dieu ? Si, Jacob connaissait Dieu. Mais son identité n'était pas encore touchée. Et il fallait, avant qu'il rentre dans le pays de la promesse, et ça, ça nous parle à nous tous ici, il fallait que Dieu touche la profonde identité de Jacob. Et vous savez que donc il a fallu qu'il Péniel, ça veut dire face de Dieu. Il a fallu cette rencontre avec Dieu. Et est-ce qu'on se retrouve, nous, un peu comme là, un peu au seuil du pays de la promesse? On a parlé récemment avec Caleb du Jourdain. Bref, on retourne, on est vraiment dans l'esprit, dans cette situation-là. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le Jourdain, etc. Mais là, j'aimerais parler de la notion d'identité. La situation de Jacob était un peu désespérée. Il avait dû quitter le pays de Haran à cause des tromperies envers Laban, et il était son frère Ésaü, il l'avait trompé aussi, donc il était le trompeur, quoi. Il a trompé tout le monde quelque part. Et alors quand Dieu lui demande son nom, il a dû dire mon nom c'est Jacob, c'est-à-dire je suis celui qui trompe, qui supplante, c'est ça mon nom, je m'appelle comme ça, je suis comme ça, Seigneur. Donc il avoue qui il est, il avoue qui il est. Et la tentation, Elle est là, dans cette nuit où il était tout seul. Il y a des moments où on est seul. Et ces solitudes ne sont pas pour nous détruire, mais c'est pour des cœur à cœur avec Dieu. Et vous voyez, là, dans ces ténèbres, il a vu Dieu qui combat. Alors c'est marrant parce que d'un côté, Dieu combat contre lui, mais en même temps, Dieu le bénit aussi. Et en fait, c'est quand il dit « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni », c'est qu'à la fois Dieu, il combat des choses en nous aussi, hein, qui lui déplaisent. Mais c'est pour nous bénir, c'est cette idée. Et cette lutte, elle a amené Jacob à dire, mais voilà, j'ai vu Dieu face à face. Il a touché Dieu à la hanche. Et là, j'aimerais dire que la hanche, c'est quoi ? C'est le symbole de la force et c'est le symbole de la capacité de marcher tout seul. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de Dieu quelque part. Hein. Et cette hanche, elle parle de l'indépendance. Elle parle de l'indépendance. Et c'est cela que Dieu travaille chez Jacob. Vouloir faire tout seul, vouloir s'arranger tout seul, vouloir trouver des combines, voyez ? Vouloir trouver des combines. Et Dieu dit, ah, j'ai besoin de toucher ça. Et Dieu a touché l'indépendance. Jacob, quelque part, n'avait pas vraiment besoin de Dieu. Il se débrouillait sans lui. Il faisait sans lui. Mais pour rentrer dans ce pays de la promesse, il fallait que Jacob soit touché dans son désir d'indépendance. Voyez. Et donc, cette nature autonome de Jacob a été touchée. Et l'assaillant dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et alors là, Jacob, il s'agrippe à cet ange avec l'énergie, on pourrait dire l'énergie même du désespoir. Il s'agrippe à lui. Il a reconnu le caractère céleste de son adversaire. Et alors, il lui demande la bénédiction. Et il se rend compte que toute sa vie dépend de cette bénédiction, voyez. Qu'il est incapable de faire un pas de plus par sa propre force. Là, c'est, si vous voulez, on se sent dépouillé de nos propres forces. Et parfois, quand on a de grands dons, c'est d'autant plus difficile d'arriver au point où on ne peut plus. Et pourtant, ce point où on ne peut plus, c'est le point où Dieu nous attend pour dire, voilà, maintenant, eh bien, j'ai besoin de te toucher dans qui tu es. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne connaissait pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'avant, Dieu nous aimait moins. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est que pour entrer dans un héritage, il y a besoin qu'il n'y ait plus d'autonomie et qu'il n'y ait plus d'indépendance. Et l'arme de Jacob, alors, quelle est l'arme de Jacob pour vaincre quelque part ce personnage céleste ? Est-ce que c'est sa force physique ? Ben non, il n'est pas assez fort, Jacob. Est-ce que c'est ses mérites ? Ben non, Jacob, ça veut dire le trompeur, le supplanteur. Tout ça, c'est parti. Alors, quelle était son arme pour s'accrocher comme ça à Dieu ? Eh bien, c'est la promesse que Dieu a faite à Jacob. Et cette promesse, c'est cette terre, je te la donnerai et je ne l'abandonnerai pas. Est-ce que tu te rappelles les promesses que Dieu a faites dans ta vie ? Les promesses pour toi, les promesses pour l'Église, ici. Et je crois que c'est important qu'on se rappelle ces promesses. Et il y a des moments où on n'a plus rien, mais on a la promesse. Jacob, il n'avait plus rien. Il ne savait même pas si le lendemain, il allait vivre encore. Parce qu'il ne savait pas du tout si Ésaü, son frère, allait l'accueillir bien ou pas. Donc il était là, sans plus, il n'a plus rien, dans le désert, tout seul. Et la promesse a fait qu'il s'est accroché. Il faut que tu me bénisses. Pourquoi ? Pour accomplir cette promesse. Donc la promesse, et ça c'est la promesse, c'est la foi. Voyez, dans 2 Pierre 1, 3, 4, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Marquez, il n'y a pas seulement la piété en tant que chrétien, il y a la vie. Et tous les domaines de la vie quotidienne, il y a besoin de sa puissance. Parfois on dit, dans les domaines de la vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Dans le domaine de la foi, j'ai besoin de Dieu. Mais Dieu dit, ma puissance, c'est pour la vie et pour la piété. C'est pour tout. Et c'est cette connexion à la source de Dieu, dans la vie et dans le domaine de la foi dont on a besoin. Alors, il est dit ensuite, voilà, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Par elles, participants de Dieu, par les promesses. Alors, quel est ton nom ? Alors, le nom dans la Bible, vous savez, c'est le caractère, le nom. Hein ? C'est l'essence de l'être. Qui es-tu pour que je te bénisse ? Et Jacob dit, ben, je suis Jacob. Donc, la question n'est plus ce qu'il a fait, ce qui pourrait être pardonné, toutes les bêtises de Jacob, mais la question est ici, qui tu es ? Qui tu es ? Hein, c'est une question. Ton identité, alors ton identité de trompeur, de supplanteur, c'était l'identité de Jacob. Hein. Et parfois, nous, on dit, on connaît Dieu, mais on dit, ben, mon identité, je suis un pécheur, je suis ceci, cela. Attention à ce qu'on dit de nous. Parce que là, Dieu ne pouvait pas faire entrer Jacob avec cette identité-là. Il ne pouvait pas. Vous voyez ? C'est important. Attention. Donc, il a dit, je suis un supplanteur. Et Dieu dit, maintenant, tu ne seras pas, ton nom ne sera pas Jacob, mais il sera Israël. Israël. Et Israël, ça veut dire, entre autres, Dieu règne. Dieu règne. Donc, Dieu a dû changer le nom de Jacob avant qu'il rentre et que les promesses entières s'accomplissent. Et ça, c'est pour chacun de nous. Dieu touche, comme Pierre, alors il n'y a pas eu un changement de nom, mais on voit beaucoup de changements de nom dans la Bible. Abraham, Abraham, on voit Sarah, Sarah, avec le H de Dieu, hein, le marque de Dieu. On voit Paul aussi, Saül qui devient Paul. Bref, Dieu, il touche les identités avant qu'on rentre dans l'héritage. Et Jacob, il a donné le nom de Peniel. Et Peniel, ça veut dire voir la face de Dieu. Et Jacob, là, à ce moment-là, il était un autre homme. Il était un autre homme. Il a été changé. Et le fruit, vous savez, c'est une autre relation avec son prochain. Quelle est la marque que Dieu a touché l'identité de quelqu'un ? Eh bien, je peux vous assurer, dans le mille, la marque, c'est la relation qu'on entretient avec les autres. Ça, c'est une marque. Regardez, Genèse 33, 10, Jacob dit, j'ai vu, il a rencontré Ésaü. Et à Ésaü, son frère, il lui dit, j'ai vu ta face comme on regarde la face de Dieu. C'est impressionnant ce verset. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, ce verset, dans la Bible. Il va vers Ésaü et il lui dit, j'ai vu ta face, Ésaü, comme j'ai vu celle de Dieu. Waouh ! Le regard qu'il a eu sur son frère était changé par le regard qu'il a croisé de Dieu sur lui. Quand on croise le regard de Dieu sur nous, notre regard sur nos frères et sœurs est changé. Et nous pouvons voir chez chaque homme l'image de Dieu et la gloire de Dieu parce que on a vu la face de Dieu. Et ça, c'est l'identité changée. Quand une identité est changée, le regard sur soi et sur les autres est changé. Et ça, c'était là. Il a vu son frère comme jamais il l'a vu avant. J'ai vu ta face comme on regarde la face de Dieu. Les deux sont liés. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, me dit la Bible. Alors le but de ce récit, c'est de rappeler que la nation d'Israël, sur le point de rentrer dans la terre promise, que sa victoire ne lui viendra pas, comme les autres nations, de la force, des capacités, des mérites, mais elle viendra par la puissance de la bénédiction de Dieu, par une identité restaurée, Jacob qui devient Israël. On aurait très bien pu imaginer Dieu qui vient, qui prend Jacob, qui le bénit et qui l'envoie. Mais non, Dieu a dû combattre Jacob, jusqu'à ce qu'il soit marqué dans son indépendance, dans sa suffisance. Et c'est en tant qu'insuffisant et que se sentant faible que Dieu dit, ben maintenant il est faible, je peux mettre ma gloire sur lui. Dans cette faiblesse, je peux agir. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans ce terrain promis. Alors, la grâce, c'est quoi ? C'est tout ce que Dieu est, la grâce. Quand il est dit « la grâce est sur moi », tout ce que Dieu est. La grâce, c'est tout ce que Dieu a. Et la grâce, c'est tout ce que Dieu fait. Et bien, la grâce, elle est pour chacun de nous. Alors, maintenant, on a vu l'histoire de Jacob. Mais l'important, alors, quel nom je donne à Dieu ? Hein ? On a vu que l'identité, c'était connaître Dieu et se connaître soi-même, selon les yeux de Dieu. Mais ça commence par connaître Dieu. Et vous savez tous, il y a un passage, quand on connaît mal le Seigneur, eh bien, du coup, il se passe des choses très étonnantes. C'est comme dans Marc 6, il y a un moment, Jésus, il est là, il est dans sa région, il était connu par ses frères et sœurs, par sa famille, et il arrive et les gens disent, tiens, est-ce que ce n'est pas le charpentier ? Donc, quel nom il donnait à Jésus ? Charpentier. Qu'est-ce qui s'est passé comme fruit qu'ils ont eu dans leur vie ? Très peu. Ils l'ont traité de charpentier, eh bien, il y a eu Jésus, la parole me dit, il n'a pas fait beaucoup de miracles ici. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait des miracles, il faut quoi ? Il faut qu'on croie qui est Dieu, le connaître comme il est lui. Si on réduit Dieu à un charpentier, on aura une vie de charpentier. On aura des effets d'un charpentier. Si on croit que Dieu est fils de Dieu et qu'il guérit aujourd'hui, on aura les fruits de ce qu'on croit. C'est impressionnant. Notre connaissance de Dieu détermine l'action de Dieu dans nos vies. C'est impressionnant cette histoire. Une petite connaissance de Dieu entraîne de petites actions de Dieu. Une connaissance de Dieu selon la parole libère la grâce et l'onction de Dieu. Donc ça, c'est Marc 6, voyez. Et les gens, ils l'ont réduit à un charpentier, à quelqu'un qu'ils avaient vu petit, enfant, etc. Faisons attention, nous, adultes, par rapport aux enfants. On a l'habitude, on les a vus grandir, etc. Mais il y a un moment, attention, il faut que tu vois, c'est plus les gamins, hein. C'est des fils et des filles de Dieu. Si tu les vois comme des enfants, ils risquent de rester comme des enfants. Mais si tu commences à les voir comme des partenaires et des, eh bien, Dieu va les libérer dans leur rôle. Notre regard peut enfermer ou peut libérer. Et notre regard, on a besoin nous aussi du regard de Dieu sur nos enfants afin qu'ils soient libérés. Alors, on voit que, attention à comment on voit Dieu, quel nom on donne à Dieu. Et c'est pourquoi l'adoration est tellement importante. Parce que dans l'adoration, on élève le nom de Dieu. Et quand on élève le nom de Dieu, eh bien, il se manifeste comme Dieu. Plus on l'élève, plus il manifeste sa gloire. Donc l'adoration, c'est notre service, on est transformé à son image. Et quand on dit « Seigneur, tu es Jésus, fils de Dieu, roi du ciel et de la terre, etc. », eh bien ce qu'on dit amène quelque chose sur la terre qui va changer. Mais ça ne suffit pas maintenant de connaître Dieu. Et le but n'est pas un message sur les noms de Dieu et tout ça. Mais maintenant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi ? Et Dieu a dit à Jacob, tu es Israël. Est-ce qu'il y a un moment, tu as entendu ce que Dieu a dit de toi, de qui tu es ? Ça c'est important. Et vous savez, dans Jésus lui-même, une des clés chez Jésus, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mais en tant qu'homme, regardez ce qu'il a dit. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le vrai cep. Il y a plein de je suis. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'identité de Jésus était bien enracinée. Alors vous allez me dire, oui mais c'est Jésus, il est fils de Dieu, c'est plus facile pour lui, etc. Attention, il était parfaitement homme. Et en tant que parfaitement homme, toute cette référence de « je suis, je suis, je suis » devrait faire un écho chez nous. Et c'est comme si Dieu nous dit ce matin, « Et toi, qui es-tu ? Qui es-tu ?» Alors tu dis, moi je suis un pauvre petit Alsacien perdu dans ma région, je suis un pauvre jeune homme, une pauvre jeune fille, je suis un misérable pécheur, etc. Attention à ce que tu dis. Hein. Et le Seigneur, lui Jésus, impressionnant tous ces « je suis ». Et cette répétition des « je suis », Dieu d'abord s'appelle « je suis ». Rappelez-vous, dès la Genèse. Donc plus on est proche de Dieu, plus on peut dire « je suis un fils de Dieu, je suis ». Un héritier. Je suis le bien-aimé du Seigneur. Je suis. Plus on connaît Dieu, plus on pourra dire je suis. Et donc qui Dieu, qui es-tu pour lui ? Et là vous avez tous les passages extraordinaires, je ne veux pas donner toutes les références, mais tu es un sacerdoce royal, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes mes amis, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes à Christ, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, vous êtes une lettre de Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, vous êtes fils, vous êtes enfant de la promesse, vous êtes édifié, vous êtes lumière du Seigneur, etc. etc. Ça c'est ce qui nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'on dit de soi-même ? Vous voyez, ça ne suffit pas de dire qui est Dieu, mais qui est-on nous-mêmes ? Et maintenant, par rapport à notre héritage. Donc Jacob, son nom est changé en Israël et il rentre à nouveau dans la terre promise. La première étape pour nous tous, c'est être. Et c'est être avant de faire. C'est être avant d'avoir. C'est être d'abord. Et être, c'est la restauration de l'identité. Rappelez-vous les messages de Richard Hayes, l'identité c'est la justice, c'est qui je suis, c'est ça qui est important. Et je crois que plus au milieu de nous, nous aurons chaque membre de l'Église qui saura qui il est vraiment, plus l'identité corporative va pouvoir se manifester dans toute son autorité et sa sagesse. Voyez, donc, et qu'est-ce qui se passe? La première étape, c'est être, d'accord? La deuxième étape, ça va être avoir. Parce que quand je suis, je sais qui je suis, eh bien, j'ai mon héritage. Je le prends ce matin. Vous voyez, il y a eu le temps ce matin et Dieu rappelait le regard d'amour qu'il avait sur nous. Mais il nous disait aussi, approprie-toi ça. Prends-le par la foi. Il n'y a rien qu'on ne puisse prendre sans que ça soit par la foi. En fait, tous les trésors de Dieu se prennent par la foi. C'est pour ça que le premier travail de l'ennemi, c'est de toucher la foi. Alors on est déçu, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance dans les gens, on n'a plus confiance dans ceci, cela. Eh bien, là, l'ennemi a gagné. Parce que quand tu n'as plus confiance, tu ne peux plus rien recevoir. Et tu vas dire, c'est la faute de Dieu. Mais Dieu dit, mais c'est par la foi. Regarde cet héritage, prends-le par la foi. Donc, être, ensuite, avoir, je m'approprie mon identité parce que mon héritage, c'est une nouvelle identité. Ton héritage, c'est le nom d'Israël, vainqueur. Alors Dieu a un nom différent pour chacun de nous, mais ton nom, ton nouveau nom, quelque part, c'est plus peut-être que tout ce que tu peux croire. Et ensuite seulement, une fois qu'on est, une fois qu'on a, on a pris ce que Dieu a pour nous, alors on fait. Mais voyez, on fait des choses, pas parce qu'il faut les faire, on les fait à cause de qui on est. Vous voyez ? À cause de ce qu'on a pris de Dieu, ce qu'on a reçu de lui, voyez. Donc, ce que je fais, ça vient d'où? Ça vient de ce que j'ai, et ce que j'ai, ça vient d'où? Ça vient de ce que je suis, voyez. D'où l'importance de l'identité. Et nous, trop souvent, la religion, elle nous dit, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et Dieu dit, il faut être, il faut être, il faut être. Je rappelle une phrase qui m'avait beaucoup touché, qui dit que le ministère, ce n'est pas faire, le ministère, c'est être qui on est. Et quand on est vraiment qui on est, les choses coulent de nous et les choses se font, quand on est vraiment qui on est. Donc la grande difficulté parfois, c'est d'être vraiment qui nous sommes en Dieu. Ça paraît simple comme ça, mais parfois il faut des années. Pour Jacob, il a fallu des années, il a fallu des déceptions, des galères. Il a fallu qu'il soit jusqu'à déçu de lui-même profondément pour que enfin Dieu dise Israël. Rappelez-vous pour Gédéon, pareil. Avant de libérer Israël, tout ça, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Dieu change l'identité de Gédéon. Il se voyait le plus minable des tribus et des familles et Dieu lui dit vaillant héros. Changement d'identité. Changement d'identité. Donc, prenons avec confiance la nouvelle identité que Dieu nous donne. En fait, la Bible s'appelle, on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça veut dire quoi, un testament? Est-ce que tu as mérité quelque chose? Quand quelqu'un meurt dans ta famille et il te lègue un testament, est-ce que tu as mérité quelque chose pour l'avoir? Mais non, tu fais partie de la famille, tu as eu le testament, tu hérites, point barre. Tu hérites. Est-ce que tu as fait des efforts? Non, mais tu hérites tout simplement. Eh bien, ça, c'est le paradigme selon Dieu, c'est l'hérite. Nous sommes héritiers. Nous n'avons rien fait pour, hein, mais nous le sommes. Et ça, c'est les choses. Nous prenons ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne par héritage. Et il veut faire de nous, ensuite, une source de bénédiction pour les autres. L'héritage de Dieu, c'est prendre tout ce qu'il a pour nous, non pas pour nous, mais afin d'être une source de bénédiction pour tous les autres. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Moi, je crois que, par exemple, j'ai lu dernièrement, la semaine dernière, un texte qui m'est venu par le CPDH sur le thème de la refondation de l'école. On a un peu parlé ici, mais vous savez que j'ai lu des extraits de M. Payon dans un livre qu'il a écrit en 2008, notre ministre de l'Éducation nationale. Et il dit ceci, il faut que l'école, écoutez bien, ça c'est, devienne la nouvelle église. Il emploie le mot église. Que les enseignants soient les nouveaux prêtres. Il n'a pas le mot prêtre. Et il dit, nous voulons une révolution. C'est l'esprit révolutionnaire. C'est exactement les mêmes termes que les Saint-Just et tout ça de la Révolution en France, 1789. J'ai les mêmes vocabulaires. Et donc, la notion de république est vue ici comme un dieu. Et son projet s'appelle « Refonder l'école ». Et c'est comme, il y a un moment, je me suis dit, mais attendez, il veut refonder l'école parce que nous, chrétiens, on n'a pas voulu la refonder. Vous voyez ? Pourquoi ça se fait là ? Je crois que la société est le reflet de l'État, de l'Église. C'est ce que Martin Scott aussi nous a rappelé l'autre fois. Il y a longtemps que l'Église était appelée à refonder l'école. Elle ne l'a pas fait. Un gouvernement arrive et dit « moi, je vais la refonder ». Ça veut dire « je vais poser des fondements ». Et la Bible me dit dans Psaume 11, « si les fondements sont dévastés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire ?» L'Esprit de Dieu nous a été donné pour toucher les fondements. Notre pays, si vous voulez, prendre un pays, bénir un pays, c'est commencer par remettre les fondations. C'est ça. On ne peut pas bâtir sinon. Donc il faut remettre les fondations. Et dans tous les domaines, le domaine éducatif, le domaine du gouvernement, le domaine de la politique, le domaine de l'économie, Dieu nous appelle à remettre les fondements. Et vous allez me dire, mais c'est énorme comme tâche. Eh bien, vous ne croyez pas que le peuple d'Israël, devant la terre de Canaan à prendre, ça paraissait gigantesque, immense. Bien sûr que ça paraissait immense. Ça paraissait impossible. Et Dieu pourtant nous dit, je t'appelle à refonder. Et 1 Corinthiens 3 nous dit, il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Et prends garde comment tu vas bâtir dessus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Donc quand au début je voyais ce projet de refonder l'école avec toutes ces choses iniques, cette théorie du genre, ces enseignants qui n'auront plus le droit d'appeler une fille fille et un garçon garçon, je me dis mais... Je pointais du doigt comme ça. Et le Seigneur, c'est un peu comme le boomerang. Le Seigneur me dit, mon Église, il y a longtemps que je l'appelle à refonder. Et que ça, je suis convaincu que ça, toutes ces choses-là sont un électrochoc nécessaire pour que l'Église prenne ses responsabilités. C'est très bien ce qu'on va faire cet après-midi, de manifester. C'est très bien. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû donner les bonnes définitions. Ça fait depuis plus de 20 ans que dans toutes les écoles, les universités de France, la théorie du genre, elle est déjà là, depuis plus de 20 ans. On n'a jamais entendu un autre message. Et dans les universités, c'est depuis longtemps que c'est là. Donc maintenant, ça prend du temps à venir dans le concret, dans les écoles, mais ça fait longtemps. Et si on est une église prophétique, je peux vous dire, eh bien, merci Seigneur, c'est vrai qu'il y a longtemps aussi qu'on se bat pour ces choses, mais Dieu nous dit, je t'appelle à bâtir sur ces fondements, à être prophétique, c'est-à-dire à ne pas attendre pour manifester, mais à bâtir avant de réagir. Nous, on est toujours dans la réaction. Dieu nous dit, je veux que tu sois dans les fondements. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour réagir. L'Esprit de Dieu, c'est pour bâtir. Et l'Esprit de Dieu, c'est pour rebâtir, pour remettre d'autres fondements. C'est ça pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été donné. Ésaïe 61, c'est pas seulement pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, mais c'est pour rebâtir. Ça, c'est important. Et je termine par cette vision de Zacharie. Vous savez, on en a déjà parlé ici il y a quelques semaines, mais ça me revient souvent. C'est que Zacharie voit, il voit des cornes qui veulent détruire la nation d'Israël. Les cornes nous parlent de l'autorité. Et vous savez, la réponse de Dieu, ça a été quoi ? Ça a été des ouvriers, des bâtisseurs. Ça a été, le terme hébraïque, c'est des bâtisseurs, des forgerons, des ouvriers, des maçons. Dieu, notre réponse, c'est bâtir. Il ne servirait à rien de manifester toute notre vie contre des lois iniques si nous ne prenions pas nos responsabilités qui sont de bâtir d'autres fondements dans tous les domaines. Et ça, c'est notre cœur. C'est notre vision et c'est le pourquoi nous existons en tant qu'Église. C'est notre vocation, mes amis. Simplement, que nous puissions recevoir ce matin le nom nouveau que Dieu a pour nous. Et vous savez qu'il nous a donné un nom, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme nom en tant qu'Église ? Josué. Vous croyez que c'était un nom romantique comme ça, tiens, ça va être sympa, on va mettre Josué, ça fait bien. C'est un nom que Dieu nous a donné. Et Josué, ça veut dire bouge-toi, ça veut dire lève-toi, ça veut dire sauveur. Hein? Yeshua, Jésus. Mais moi, parfois, je me dis, Seigneur, on aurait peut-être dû choisir un autre nom. Je ne sais pas, moi. Amour. La communauté de l'amour. Ça aurait été super, ça. Peut-être on aurait été un peu plus tranquille, quand même. Eh bien non. Ben non. Dieu a dit Josué. Alors ça veut dire que chaque fois qu'on veut s'arrêter, Dieu dit, attends, il y a tout le pays qui est là. Et c'est vrai que ça met une pression sur l'Église. Et c'est vrai que, faisant partie de cette Église, vous la sentez, cette pression. Pression financière, pression d'engagement, pression d'intercession, pression de voyage. Et on aimerait parfois être un peu plus tranquille. Mais Dieu ne nous laisse pas tranquilles, mes amis. Parce qu'il nous a appelés Josué. Seigneur, merci pour le nom que tu nous as donné. Et merci pour l'héritage qui est notre pays jusqu'aux îles lointaines. Pour l'héritage qui sont nos enfants, mais aussi ceux qui sont au loin. Seigneur, merci. Je te prie, Seigneur, comme à Jacob, de marquer ton empreinte dans nos vies. Et Seigneur, nous abandonnons nos suffisances, notre indépendance, et nous disons, Seigneur, nous recevons de toi ta vie, ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour cette nouvelle identité de fils et de fille, justifiés, héritiers. Alléluia. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des justes qui péchons parfois. Mais nous sommes des justes. Merci Seigneur pour le ciel ouvert sur cette église, sur cette région, sur les familles. Et nous disons que ce ciel amène la guérison, la restauration dans tous les domaines. Seigneur, merci pour le domaine éducatif qui était un peu plus travaillé. Mais j'appelle les ouvriers dans les autres domaines aussi, dans tous les domaines des arts. On a entendu que les arts allaient être utilisés par Dieu pour toucher l'Europe. Seigneur, merci pour la restauration de ce domaine des arts. Alléluia, de tous les autres domaines, dans le nom de Jésus. Encourage-nous, Seigneur, chacun d'ici. Et merci pour le regard d'amour qu'on a croisé ce matin, qui nous encourage à courir la course de la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, simplement, avant qu'on se quitte, je vous rappelle les dîmes et les offrandes.